Vous écoutez RTL.
Quand on a des doutes, on peut pas faire son deuil. On sait que Michael est parti depuis maintenant 16 ans. Mais si on pouvait savoir ce qui s'est passé, ça pourrait nous apaiser un peu.
Bonsoir, 19 ans que les parents de Michael jouissent, attendent une réponse simple à une question tout aussi simple mais terrifiante. De quoi est mort leur fils de 25 ans à l'été 2002 ? Accident, comme l'affirment sans certitude les experts, ou crime, une hypothèse que rejette la justice. Et ce, en dépit des éléments troublants qui n'ont cessé d'émerger dans ce dossier. Un corps qui aurait pu être transporté, une victime qui aurait été rhabillée, dont plusieurs dents ne seront jamais retrouvées, un témoin oublié, autant d'incohérences, de bizarreries qui n'ont pourtant jamais retenu l'attention des enquêteurs et des juges. Le procureur général de la cour d'appel d'Angers a ainsi rejeté tout récemment une dernière demande visant à rouvrir le dossier. À ce jour, la mort du jeune footballeur amateur Michael Jouys est une affaire classée et peu importe au final qu'elle demeure sans réponse. C'est sur cette mort inexpliquée que nous allons nous pencher ce soir. Michael Jouys a-t-il fait une chute mortelle ou est-il la victime d'une mauvaise rencontre? Pourquoi la justice ne veut pas réexaminer l'affaire? Le dossier peut-il rebondir? Avec nos invités, parmi lesquels les parents de Michael Jouys, nous allons éclairer cette étrange affaire, un jeu de cache-cache avec la vérité.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir donc dans l'heure du crime, la mort inexpliquée de Michael Jouys à l'été 2002 dans le Maine-et-Loire. Affaire qui commence par la disparition d'un jeune homme qui n'a jamais fait parler de lui. Le lundi 17 juin 2002, Marc et Marie-Joseph Jouys, un couple qui habite la Varenne, une petite commune entre Nantes et Angers, vient signaler à la gendarmerie la disparition de leur fils, Michael, âgé de 25 ans. Il n'a plus donné de ses nouvelles pendant tout le week-end et surtout, il ne s'est pas présenté lundi à son travail dans l'entreprise d'outillage qu'il emploie à Ancenis. Marc Jouys explique qu'il a vu pour la dernière fois Michael le samedi. Aux alentours de 16h, il est était alors chez Jérémy, l'un de ses meilleurs amis. Ce samedi soir, Michael avait prévu de retrouver la plupart de ses potes, avec qui il joue notamment au football, à une fête intervillage sur les bords de Loire. Plus précisément, au lieu dit Chapoing, où le fleuve forme un bras mort. Les gendarmes commencent à se renseigner. Il apparaît que Michael était bien présent à cette fiesta, réunissant une cinquantaine de jeunes et qui s'est terminée vers 3 ou 4 heures du matin autour d'un barbecue. Sans surprise, tout le monde a beaucoup bu, Michael y compris. Comme bien d'autres, il a pris quelques verres au café du coin, le Lion d'Or, avant de participer aux festivités. Ceux qui l'ont vu indiquent qu'il était alcoolisé, mais pas au point de s'écrouler. Il avait demandé à une de ses copines, Vanessa, de le ramener chez lui une fois la fête terminée à 2h. Elle ne l'a pas trouvé et est partie sans lui. Les gendarmes sont préoccupés par cette disparition car Michael n'est pas vraiment du genre à ne plus donner de nouvelles. Il travaille et il a plein de projets en cours. Ce 17 juin, il devait emménager dans un appartement, une colocation. Il avait prévu également de se rendre en Roumanie pour les vacances d'été avec un groupe d'amis. Les enquêteurs fouillent les bords de Loire, une équipe de plongeurs scrute le bras mort du fleuve, une boire, comme on appelle ici ce genre de lieu. Rachel, une participante à la fête, témoigne l'avoir croisé à cet endroit autour de 3h du matin. Il était ivre comme la plupart des fêtards. Elle a pensé qu'il rentrait chez lui. Un hélicoptère survole le coin et les méandres du fleuve. Une battue réunissant 200 personnes est organisée. Les proches et la famille de Michael Jouys arpentent à plusieurs reprises le secteur. Ils essaient de reconstituer le chemin que le jeune homme aurait pris dans l'hypothèse où il aurait voulu rejoindre son domicile à pied. La voiture de Michael n'a effectivement plus bougé depuis samedi de chez Jérémy où elle était stationnée. Personne n'y a touché. Les recherches vont se poursuivre pendant plusieurs jours. Un ratissage méthodique, mais aucune trace du disparu. Bonsoir Marc et Marie-Joseph Jouys.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes les parents, évidemment, de Michaël Jouys. Et je viens de raconter ces toutes premières heures. On va évidemment développer dans cette heure du crime l'enquête et puis sans doute les bizarreries, les anomalies qui truffent ce dossier. Elles sont nombreuses, on va le voir. Je suppose, Marc Jouys et Marie-Joseph Jouys, que vous n'avez rien oublié, évidemment, de ce 17 juin 2002, lorsque vous signaler la disparition de votre fils. Dites-nous un petit peu, qui est Michaël, votre fils ?
Michaël était un enfant sérieux, calme. Bon,
Pas très bavard. Mm-hmm. Pas très bavard, mais il ne nous a jamais causé aucun problème.
C'est un enfant qui, pour nous, était un enfant qui nous a toujours apporté des satisfactions du point de vue de ses études, de son travail. Il a toujours été très sérieux, quoi.
Oui, c'est ça. En tout cas, ce que je disais dans ce récit, bref, pour l'approcher un petit peu, c'est un garçon qui a l'air plutôt rangé, c'est un sportif confirmé. Il n'est pas du tout du genre à disparaître comme ça du jour au lendemain.
Ah non, c'est jamais arrivé, hein. Ou alors il appelait, s'il ne rentrait pas, il appelait, hein. Jamais il nous avait fait ça, jamais.
Et est-ce qu'il avait pas des ennemis, c'est beaucoup dire, mais des inimitiés, etc. Est-ce qu'il aurait pu finalement se bagarrer ce soir-là ? C'était envisageable ou c'est pas quelqu'un qui cherchait les ennuis ?
Sens, hein, c'était pas le genre à se bagarrer, enfin pas à notre connaissance, hein, il n'avait pas d'ennemis à notre connaissance.
Ce soir-là, d'après les témoignages de ses amis et les gens d'ailleurs avec qui vous avez pu discuter, cette fête, tout se passe bien. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu dans quelle ambiance ça se passe sur ce coin de Loire que moi je ne connais pas, mais qui est un coin bucolique et plutôt calme?
Ah oui, c'était une région très calme. Bon, mais l'après-midi, donc ils avaient fait une fête. Il y avait un genre de concours d'apéritifs qu'ils faisaient avec entre jeunes. Ils faisaient chacun leur apéritif. Nous, on était là pour faire les parents des jeunes. On avait passé le début d'après-midi avec eux. Et puis après, ils sont retrouvés, ils sont regroupés pour aller au café du Lion d'Or, comme vous disiez tout à l'heure. Et ils sont descendus sur les bords de Loire après. Ils ont passé la soirée à faire des grillades et puis discuter, certainement boire plus qu'à la normale, mais non, ce sont des...
Oui, c'est une fête entre jeunes, comme il y en a sans doute des dizaines à ce moment-là. Donc il n'y a rien de très particulier qui peut se passer ou qui a éveillé, en tout cas ce soir-là, l'attention des uns et des autres. On a également en ligne ce soir dans l'heure du crime notre deuxième invité, c'est Maître Philippe Billot. Bonsoir Philippe Billot.
Bonsoir, monsieur Richard.
Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct ce soir dans l'heure du crime depuis Rennes, votre belle ville de Rennes. Vous êtes l'un des avocats des parents de Michaël Jouys, avec, je le signale, Maître Nokovic, qui, elle, est au barreau de Nantes. Maître Billot, je voudrais, en quelques mots, que vous nous disiez, qu'est-ce qu'ils apportent, ces premiers témoignages sur cette soirée? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qui ressort de l'attitude de Michaël Jouys?
Eh bien, l'attitude de Michaël est une attitude normale, une attitude de citoyen. Évidemment, il a peut-être bu un peu, mais sans aucune agressivité, sans absolument mépriser ses voisins ou ses compagnons. Donc quelque chose de tout à fait normal de nos jours, et c'est une soirée très respectueuse des droits de l'homme.
Alors, c'est une soirée respectueuse, vous le dites. Effectivement, il n'y a pas de bagarre. C'est une soirée festive où l'alcool coule à flot. Mais enfin, ça, c'est pas une nouveauté dans ce genre de soirée. Il va y avoir ensuite très vite, Maître Billot, des recherches, des premiers ratissages. Il y a une vraie mobilisation. On va chercher beaucoup Michaël Jouys tout de suite là, dans les heures qui vont suivre, les 2-3 jours qui vont suivre.
En principe, on va effectuer des recherches positives, j'allais dire positives au sens des investigations. Pardon. Allô, on a été coupé ?
Non, vous êtes toujours avec nous, Philippe.
Pardonnez-moi, monsieur Richard. Et avoir de conséquences, de nombreuses pistes ont été ouvertes, mais nous verrons plus tard que les constatations qui pourtant sont dans le dossier, des constatations ou des anomalies tout à fait anormales, on n'en a pas tiré les conséquences juridiques.
Ouais, et c'est bien ce qui entraîne ce soir cette heure du crime, parce qu'on se penche sur ces mystères et sur ces incohérences. Marc Jouisse et Marie-Joseph Jouisse, je parlais de mobilisation. Je crois qu'il y a une battue qui rassemble 200 personnes. On va le chercher, votre fils. Il y a une vraie mobilisation. Ses amis sont là, on veut le retrouver.
Pendant 2 jours, les amis, la famille et même les communes environnantes qui ne connaissaient pas forcément Michael sont venus se joindre aux recherches pendant 2 jours et sans résultat.
Sans résultat, on ne va pas effectivement le retrouver à ce moment-là. Michael reste donc introuvable dans ce lieu où la Loire est omniprésente. Il se pourrait qu'il soit tombé à l'eau. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. C'est pourtant à un tout autre endroit qui a déjà été exploré qu'il va réapparaître. Ce 25 juin 2002, en fin de matinée, la présence d'un cadavre est signalée au lieu dit la Haute-Sauzée, à la Varenne, à proximité d'une station d'épuration. Le corps est celui d'un jeune homme de corpulence menue. Il repose face contre terre en bas d'un talus. Les deux gendarmes présents sur les lieux ont aussitôt gelé la scène afin que celle-ci ne soit pas modifiée. La première médecin appelée sur les lieux constate le décès. Elle est aussitôt frappée par 2 détails. Un état de décomposition du corps très avancé. Tout d'abord, la peau de la victime est extrêmement sombre. Et le fait que le pantalon et le caleçon de cet homme soient abaissés jusqu'aux chevilles. Des photos d'identification criminelle sont effectuées. Elles montrent des détails qui ne vont pas figurer dans les procès-verbaux, mais qui vont par la suite beaucoup intriguer la famille. Notamment le fait que le jean et le caleçon soient tous deux enfilés à l'envers, comme si le jeune homme avait été maladroitement rhabillé. Pour le moment, le corps est transporté à l'Institut médico-légal régional afin de réaliser une autopsie. Dans le jean de la victime est retrouvé un étui de carte de crédit, une carte bancaire au nom de Michael Jouy, des relevés bancaires ainsi qu'une somme de 70 euros. Les premières constatations indiquent que le jeune homme avait 1,23 g d'alcool dans le sang au moment du décès, mais n'avait pas consommé de stupéfiants. En l'état, rien ne permet d'établir la présence d'une grosse lésion ou d'ecchymose. Mais les légistes restent prudents. L'état de putréfaction avancée ne les autorise pas à être formels. Les parents de Michael Jouy sont prévenus de la découverte du corps. Le choc est immense. Ils ne sont curieusement pas informés du fait que leur fils était en partie dénudé. Ils ne l'apprendront que plus tard et s'en étonneront auprès du magistrat instructeur. Très vite, la famille émet des doutes quant à l'endroit où a été retrouvé Michael. 3 hommes, dont Jacques Jouy, l'oncle de la victime, avaient ratissé le secteur quelques jours auparavant. Ils avaient enjambé des barbelés pour se rendre à la station d'épuration, avaient examiné les lieux mais n'avaient aperçu aucun corps. Le 21 juin, une équipe de dératisation avait travaillé à la station d'épuration de la Varenne. Un opérateur avait passé 10 minutes sur place mais n'avait rien noté d'anormal. Les enquêteurs établiront que cet homme-là, où il était situé, n'aurait pas pu apercevoir le corps. Il n'en reste pas moins que la famille doute. Et si Michael n'était pas mort sur place? Marc et Marie-Joseph Jouy, en direct ce soir dans l'heure du crime, vous êtes les parents de Michael Jouy, je le rappelle. C'est une question qui vous intrigue tout de suite, cette question. Est-ce qu'il ne serait pas mort sur place? Parce que ce lieu, comme je l'ai dit, il a été ratissé, notamment par des proches, par des membres de votre famille. C'est un étonnement total pour vous de retrouver votre fils à cet endroit-là.
Oui, tout à fait. D'autant plus que l'hélicoptère était passé au-dessus de la station. Donc, s'il avait été là, normalement, il aurait dû le voir.
Mmh. Un gendarme nous avait même dit qu'on pouvait voir un champignon de l'hélicoptère. Et personne n'a rien vu. Si le corps avait été là, ça aurait été visible. C'était quand le terrain est nu comme ça, on doit voir un corps.
Alors décrivez-nous justement un peu, Marc Jouy, le terrain où on a retrouvé le corps. C'est un endroit qui est accessible. On peut le voir de loin.
C'est un terrain qui est pas. C'est une station d'épuration qui est ceinturée par une rangée de barbelés. Il y a un talus, un coteau assez important. Et Michael a été retrouvé en bas de ce coteau.
C'est ça.
Cette station d'épuration est à 300 mètres du chemin qu'aurait dû, de la route qu'aurait dû emprunter Michael. Mmh. C'est reculé. Je ne vois pas si, comme le disent dans les constatations et dans les ressorties, dans ce qui ressort des jugements, on dit Michael est peut-être allé pour faire un besoin naturel. Mais en pleine nuit, à 3h du matin, quand il fait noir, on s'en va. Un homme ne s'écarte pas d'une route de 300 mètres pour
faire
ses besoins.
Évidemment, et surtout
que c'est difficilement accessible.
C'est difficilement accessible. On se demande d'ailleurs bien ce qu'il est allé faire à cet endroit-là. Évidemment, ne serait-ce que pour accomplir un besoin naturel, il pouvait très bien rester sur la route. Encore une question, Marc et Marie-Joseph Jouy. Est-ce que l'endroit, il y a une espèce de ravin comme ça, on dit qu'il est Il a pu tomber, effectivement, se tuer en tombant. Est-ce que c'est possible ou c'est pas une falaise, c'est un petit talus, c'est ça?
Oui, mais c'est pas possible qu'il soit tombé du haut. C'était inaccessible, le haut.
Mmh. C'était pas possible, et d'autant plus qu'il y a un expert qui, dans ses rapports, dit qu'il n'a jamais fait de chute.
Ah oui,
il a
d'accord.
Pas pu faire de chute.
Alors ça, c'est très important ce que vous dites. Ça veut dire qu'il n'est pas tombé. On l'a retrouvé en bas de ce petit talus, mais finalement, il n'a pas chuté, il n'est pas tombé.
C'est ce que disent les rapports, oui.
Parce qu'il n'avait aucune fracture sur les rapports.
Exactement, c'est ce que disent les rapports. Donc il y a aucune fracture et on va voir qu'effectivement on ne sait pas de quoi est mort votre fils. Maître Philippe Billot, vous êtes également notre invité ce soir dans l'heure du crime. Et en direct depuis votre cabinet d'avocat de Rennes, vous défendez la famille Jouy avec
un excellent conseil, Alessandra Nokovic.
Exactement.
Qui a suivi ce dossier, mais d'une façon rigoureuse, avec le maximum d'impartialité, car quand vous retrouvez un garçon sur le ventre, les bras pliés, serrés contre le torse, les pieds croisés, c'est l'attitude d'un supplicié.
Ah oui.
Ce sont des choses des anomalies très importantes sur le plan de la découverte et qui ne semblent pas avoir été examinées à fond par le dernier expert.
Alors ça, c'est extrêmement précis et c'est l'œil de l'avocat là que vous avez, mais c'est très important ce détail, effectivement, la position du supplicié. Je voudrais, Maître Billot, que vous nous parliez quand même, dire quelques mots sur cette histoire de jean et de caleçon totalement incompréhensible, puisqu'on on le retrouve, disons, déshabillé, hein, les fesses nues, il faut le dire comme ça. Et le jean est à l'envers, c'est-à-dire la braguette est du côté des fesses, si je puis dire, et ainsi que le caleçon. Alors ça, c'est incompréhensible.
C'est quand même incompréhensible, et c'est d'autant plus que les chaussures, les tennis, appelons-les des tennis, que portait Michael sont toujours lacées. À aucun moment, ces tennis ont été ouverts, et on se demande comment et pourquoi on a baissé le jean et le caleçon de ce jeune garçon. Évidemment, tout porte à croire que le rhabillage a été fait d'une façon hâtive et que par voie de conséquence, ces anomalies dont les experts n'ont pas exploité les conséquences expliquent le pourquoi de la détermination des parents qui, angoissés comme ils le sont, n'acceptent pas le fatalisme d'un juge d'instruction, par exemple. C'est important de noter que quand une personne à 2h du matin, 3h, veut se soulager. Voyez-vous l'intérêt de baisser son caleçon, de baisser le jean, alors que l'homme a des tendances toutes naturelles à rejeter son urine d'une façon très simple. Toutes ces anomalies ont des interpellations pour nous, mais n'ont pas eu des suites logiques.
L'enquête va se poursuivre et ne pas apporter de nouveaux éléments. Les gendarmes qui étudient trois hypothèses, crime, suicide ou accident, privilégient la dernière. 5 mois après la mort de Michael, le parquet d'Angers classe l'affaire sans suite. Après le classement sans suite du dossier Michael Jouy, 18 novembre 2002, ses parents vont demeurer longtemps dans l'incompréhension. Impossible d'accepter pour eux qu'une simple soirée arrosée et une chute qui plus est sans trace de choc ait pu causer le décès. Décès qui demeure d'ailleurs inexpliqué, l'état du corps ne permettant pas aux experts de se prononcer clairement. Début 2006, les parents décident de se porter partie civile. Un juge d'instruction est alors désigné. L'enquête redémarre et porte désormais sur des faits d'homicide volontaire. De nouvelles vérifications sont entreprises, relevées d'empreintes et d'ADN, notamment sur les vêtements que portait le jeune homme lors de sa découverte. Si rien ne semble avoir été dérobé, les clés de la voiture de Michael demeure introuvable. Les parents obtiennent du juge un transport sur les lieux, les abords de la station d'épuration, afin d'essayer de mieux comprendre comment serait mort Michael. L'examen médical additionnel, pas d'exhumation, en fait une étude des pièces existantes, exclut une mort d'origine criminelle sans véritablement trancher. Peut-être une mort d'origine toxique alors que rien n'a été décelé dans les viscères, ou peut-être une mort naturelle, même si Michael, sportif accompli, ne souffrait d'aucune pathologie. La famille se voit refuser une contre-expertise. Les parents attirent également l'attention du juge sur les déclarations troublantes d'un jeune homme du coin. Celui-ci aurait plusieurs fois répété avoir causé un mystérieux accident avec sa voiture. Il aurait évoqué Michael Jouy, indiquant qu'il avait eu les cervicales brisées. Ce témoin est entendu par les services de gendarmerie. Il indique qu'il n'était pas invité à la fête sur les bords de Loire. Il est confus. Il raconte qu'il blaguait. Il n'a fait que répéter ce qui se disait partout sur la mort de Michael. À propos de l'accident qu'il a évoqué, il dit qu'il s'est fait un film, qu'il a imaginé cette scène. Il ne pense pas avoir percuté qui que ce soit avec sa voiture. Devant le juge d'instruction, ce témoin répète qu'il a fantasmé. Il ajoute qu'il entend des voix et a conscience qu'il souffre d'un trouble mental. La justice dira qu'il n'est pas question d'envisager la mise en examen d'un homme qui a des hallucinations auditives et répand, je cite, « une vague rumeur publique totalement dénuée de fondement ». Marc Jouy et Marie-Joseph Jouy, les parents de Michael, l'enquête est relancée. À ce moment-là, il y a un véritable espoir pour vous que l'on avance, même si l'expertise médicale, il faut bien le dire, elle est totalement imprécise et elle part un peu dans tous les sens.
On ne sait pas à quoi s'en tenir. C'est vrai qu'il y en a une personne qui a parlé, qui a évoqué des choses, mais on ne sait pas si c'est vrai. On ne connaît rien de cette personne.
Et là, vous parlez du témoin, Marc Jouy, hein, c'est ça, c'est oui. le fameux témoin. Et effectivement, alors on peut parler évidemment de ces témoins qui racontent un peu tout et son contraire. Ça vous a intrigué cette histoire?
Ouais, puis après, on n'a pas continué dans cette piste-là parce que c'était incohérent.
Maître Philippe Billot, avocat des parents avec Maître Nokovitch, que disent ces expertises médicales? Je posais la question à Marc et Marie-Joseph Jouy, mais elles partent un peu dans tous les sens. Finalement, il pourrait être mort de tout et de son contraire, Michael Jouy.
Oui, mais les experts semblent même dubitatifs avec leur raisonnement. Je m'explique. Lorsque l'on constate qu'il manque des dents, on s'interroge, ou on interroge les autorités dentaires, pour avoir un aperçu extraordinaire. Or, dans ce dossier, 8 dents vont manquer.
On va en parler, Philippe Billot, de ces dents, oui. dans un chapitre suivant. Je voudrais tout de même que vous nous disiez un petit peu ce que dit le juge à cette époque, lorsqu'on lui présente les faits pour le moins intrigants qui sont retrouvés dans l'enquête, c'est-à-dire notamment cette histoire de victimes qui auraient été habillées et déshabillées, et peut-être le corps aurait été bougé. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus?
Le juge a été taisant, comme nous le disons souvent. Il n'a pas voulu prendre parti, développer ou indiquer les raisons pour lesquelles la piste qui s'offrait à l'instruction ou aux investigations devait être rejetée. Nous avons, de la part de juges d'instruction, n'est-ce pas, se sont succédés dans ce dossier. La dernière juge était très, 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 très gentille avec la famille, très respectueuse, mais n'a pas tiré des conséquences juridiques ou médico-légales. Nous sommes quand même j'allais dire dans l'attente d'un développement synthétique, juridique, et implacable.
Parce que il faut le rappeler, cette deuxième expertise médicale là qui s'ouvre et qui aurait peut-être pu changer la donne dans ce dossier, elle est faite justement sur un dossier, c'est-à-dire que le médecin va, il n'y a pas d'examen du corps à ce moment-là. Hein,
il n'y a pas d'examen du corps puisque il n'a pas pensé utile de faire droit à ce que l'on appelle une demande, une requête en exhumation pour pouvoir. La famille était prête, et elle est encore prête, à ce que, malheureusement, la dépouille de leur fils soit réexaminée, soit analysée, puisque dans le rapport d'expertise, on reste orphelin. On n'a pas d'examen ou de radio permettant, avec certitude, d'indiquer qu'il n'y a eu aucun traumatisme. C'est quand même énorme.
C'est effectivement pour le moins étonnant. Marc et Marie-Joseph Jouy, on écoute votre avocat, Maître Billot, l'un de vos avocats avec Maître Nokovic. Vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, vous êtes prêt à une exhumation, le cas échéant, à refaire des analyses et à ce qu'on examine à nouveau le corps de votre fils?
Oui, s'il le faut, oui. Oui, nous sommes prêts, même si c'est pas facile, mais nous sommes prêts, oui.
Ce sera revivre un moment très difficile, parce que il faut exhumer, il faut remettre le corps à faire après. C'est éprouvant pour une famille, sachant que si les enquêtes avaient été menées comme il faut dès le départ, on n'en serait pas là, quoi.
Oui, c'est ça. Vous pensez, et depuis le début, vous pensez que notamment les autopsies, etc., les analyses du corps, elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas assez précises.
Oui, c'est exactement ça.
Oui, on a vraiment fait confiance, mais il n'y a pas eu grand-chose de fait.
On pense que ça peut... Soit on n'intéressait pas suffisamment la justice, ou soit ils n'ont pas voulu nous donner les bonnes réponses.
Malgré ces anomalies et ces interrogations, l'enquête sur la mort de Michael est classée sans suite le 20 décembre 2010. Non-lieu prononcé par les juges. La famille va alors se lancer dans un long combat judiciaire. 10 ans après le classement sans suite de l'affaire Michael Jouy, l'une des avocates de la famille, Maître Alexandra Nokovic, dépose un mémoire auprès du procureur général d'Angers pour demander la réouverture du dossier. Dans cette requête, la partie civile recense toutes les questions demeurées sans réponse. Il est fait état à nouveau du pantalon et du caleçon enfilés à l'envers et découverts tel quel sur le corps de la victime. Il est également rapporté qu'il manquait pas moins de 8 dents dans la bouche de la victime. Le légiste n'a rien noté à ce sujet. Aucune de ces dents n'a été retrouvée, ni sous la tête de Michael, ni dans les alentours. Or, la découverte de ces dents serait capitale. Cela permettrait peut-être de mettre en lumière des violences, jusqu'alors invisibles, qu'elles soient d'origine volontaire ou accidentelle, précise la demande. Pour les avocats, Maître Nokovic et Billot, l'absence des dents pourrait être la preuve que le corps a été transporté et déposé par une tierce personne. Michael Jouy ne serait pas mort ici. La réponse du procureur général d'Angers ne tarde pas. 20 jours seulement après la demande de réouverture, le magistrat fait savoir qu'il n'y aura pas de nouvelle enquête. À nouveau, la porte se referme sur le dossier de la Varenne. La justice ne croit toujours pas à la piste criminelle, mais ne livre aucune conclusion digne de ce nom. La mort de Michael n'a à ce jour toujours pas croisé le chemin de la vérité. Maître Philippe Billot en ligne ce soir depuis Rennes et avocat des parents de Michael Jouy avec Maître Nokovic. Je le dis, le procureur général d'Angers, 20 jours pour trancher. J'ai presque envie de vous dire, c'est un record, non?
C'est un record, c'est même pas 20 jours, voyez-vous. Entre le dépôt de l'excellent mémoire de ma consoeur Nokovic, il mettra 4 jours exactement. On regarde un peu l'acheminement du courrier, le retour. C'est quand même, je ne veux pas dire dérisoire, mais c'est déroutant.
C'est déroutant. Mais maître Philippe Billot, vous qui êtes un avocat chevronné et qui connaissez bien la procédure, comment vous expliquez cet empressement, presque, j'ai envie de dire, à boucler ce dossier?
Eh bien, je me permets de apporter mon expérience. En règle générale, les magistrats n'aime pas les codes de caisse. Les affaires qui n'ont pas eu de solution, allez, il faut aller vite. Il ne faut surtout pas mettre en évidence des erreurs, des fautes, des inattentions des magistrats enquêteurs. ou instructeur. Et c'est un peu dans un mouvement. C'est très bien la solidarité, mais actuellement, on ne demande pas ça. Mmh. On demande la manifestation de la vérité.
Bien sûr.
Et lorsque, dans son expertise, le dernier expert, qui est un expert près de la Cour de cassation, indique, et je le lis pour ne pas, j'allais dire, dérouter tout le monde, il n'est pas étonnant que ces découvertes de cadavres aient pu paraître suspectes aux enquêteurs venus sur place, dans la mesure et caractère grand où la moitié inférieure du corps de ce défunt était pratiquement totalement dénudé et le caleçon et le jean étaient abaissés à hauteur des chevilles. Eh bien, on n'en tire pas de conséquences. Mmh. On ne procède pas à d'autres investigations. C'est quand même extraordinaire.
C'est tout à fait étonnant qu'il n'y ait pas eu de vérification un peu plus poussée dans le dossier. Maître Billot, alors un mot, c'est important. Vous l'avez un petit peu évoqué dans le chapitre précédent, mais je voudrais qu'on y revienne un peu plus précisément. C'est cette affaire des dents, les 8 dents manquantes. Parce que là, effectivement, c'est passé sous silence, cette histoire. On ne dit rien là-dessus.
C'est passé sous silence parce que l'expert judiciaire, le dernier, n'est-ce pas, a évoqué que les dents avaient fait l'objet de soins, mais il n'est pas allé jusque-là. Il n'a même pas pris soin de voir qu'il manquait des incisives, des molaires, c'est quand même extraordinaire, alors que des personnes avaient témoigné qu'il avait une dentition éblouissante. Et la photo, ou les photos que j'ai obtenues de la famille, le démontrent.
Oui, effectivement, on ne voit pas qu'il soit un garçon qui ait effectivement des problèmes de dents. Marc et Marie-Joseph Jouy, les parents de Michael, lorsque le procureur général, finalement, ferme à nouveau ce dossier, je suppose que pour vous, c'est un immense poids qui est descendu sur vous, c'est une déception totale.
Oui, c'est la douche froide, on ne comprend pas. On ne comprend pas, on se dit que notre fils a dû vivre un calvaire. Puis pour nous, c'est un questionnement perpétuel, quoi, sur les souffrances de sa fin de vie. Et puis on n'a jamais su ce qui s'était passé. Il n'y a pas de jour, mais de nuit, où on n'y pense pas.
C'est ça.
C'est complètement dans notre vie, c'est toujours présent, comme si c'était hier.
Bien sûr, c'est une histoire, évidemment, qui a beaucoup.
Ce sont des réponses vraiment illégitimes. C'est incorrect de nous répondre comme ça, alors qu'il y a des éléments dans le dossier qui n'ont jamais été vérifiés. C'est un questionnement continuel, perpétuel. Toutes les nuits, on se réveille, on pense que dans Michael, dans ce qu'il a souffert. On a l'impression d'intéresser vraiment personne.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui lui est arrivé cette nuit-là ?
On veut la vérité dans cette affaire.
Vous voulez la vérité et on l'entend bien et on est là ce soir pour le rappeler et que tout le monde entende bien que vous voulez la vérité. C'est important de le dire. Je disais effectivement le mort oublié de la Varenne, c'est tout à fait ça. Marc et Marie-Joseph Jouy, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui ? Je crois que il y a une association qui a été montée. Vous faites un appel ce soir à des témoignages, à certaines personnes qui pourraient se manifester, parler par exemple ?
On a créé une association il y a 3 ans, en avril 2018, qui nous soutient pour toutes ces épreuves qui se déroulent de tous les jours, parce que c'est de plus en plus difficile.
Et s'il y avait des gens qui pouvaient encore apporter des témoignages, bien sûr, et il ne faut pas qu'ils hésitent à venir.
Et nous les relayerons bien volontiers.
Et nous aider dans la recherche de la vérité.
Et nous les relayerons bien volontiers, ces témoignages sur RTL. On vous les fera passer le cas échéant, parce que c'est toujours important, même parfois des années après, comme ça, la mémoire peut surgir, rejaillir, un détail peut interpeller quelqu'un, c'est très important. Maître Philippe Billot, on arrive vraiment au bout de l'émission. Je vous demande en quelques mots, est-ce qu'on peut faire encore quelque chose sur le plan judiciaire, vraiment en 3 mots.
Voilà, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits beaucoup plus graves, assassinat.
Merci beaucoup, Maître Philippe Billot et puis Marc et Marie-Joseph Jouy, les parents de Michael, d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec la mort trop vite et trop longtemps oubliée de Michael Jouy. Espérons que la vérité puisse enfin apparaître, ne serait-ce que pour apaiser ses parents. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Vivian Lecuivre à la réalisation et puis un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.